Dans le prétoire, c'est la chronique du service Enquête Justice de France Inter. Ce matin, on va s'intéresser à toutes ces personnes mises en examen et qui refusent de répondre aux questions des juges d'instruction. C'est régulièrement le cas dans les affaires de terrorisme. Par exemple, dans ce dossier des attentats du 13 novembre, le principal accusé, Salah Abdeslam, refuse de parler et il invoque le droit au silence. Charlotte Piret.
La scène se passe dans le bureau du juge le 24 avril dernier. Salah Abdeslam a été extrait de la prison de Fleury-Mérogis pour être entendu une nouvelle fois. Mais une nouvelle fois, il décide de faire usage de son droit au silence. Alors, des heures durant, le juge d'instruction égrène ses questions, 210 questions et pas une seule réponse, rien. Sur la retranscription de l'interrogatoire que nous avons pu consulter, cela se traduit par une seule et même expression, garde le mutisme. Pourtant, dans ces questions auxquelles Salah Abdeslam ne répond pas, on en apprend beaucoup sur son rôle de convoyeur chargé d'aller chercher l'ensemble des membres du commando, à l'exception de deux ou trois personnes, est-il indiqué, sur la complicité de Mohamed Bakali qui aurait piloté ses rapatriements depuis la Belgique avant de dispatcher les terroristes dans différentes planques, sur les faux papiers distribués aux attaquants. Bref, ces questions sans réponse disent aussi l'avancée du dossier.
Mais cette stratégie du droit au silence n'est pas propre à Salah Abdeslam et loin de là.
Rappelons d'ailleurs qu'il s'agit là d'un droit inaliénable de la personne poursuivie, le droit au silence inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme et en droit français dans la loi du 27 mai 2014 qui prévoit pour toute personne mise en cause le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Et bien d'autres, avant Salah Abdeslam, ont choisi cette dernière option, comme nous le rappelle Gilbert Thiel, ancien juge d'instruction au pôle antiterroriste de Paris.
Que ce soit les activistes corses ou basques ou certains islamistes radicaux en matière de terrorisme, celui-ci reposant la plupart du temps sur un aveuglement idéologique, eh bien cela va de pair avec une récusation de ce que peut représenter l'institution judiciaire.
Et pourtant, que ce soit les indépendantistes basques, corses ou Salah Abdeslam, les mis en examen continuent à être convoqués par les juges d'instruction.
Parce que si les enquêteurs apprennent à se passer des déclarations des mises en cause, leurs interrogatoires ont néanmoins leur utilité dans la procédure judiciaire. À commencer par le fait que le mis en examen peut toujours changer d'avis. Mutique un jour ne veut pas dire mutique toujours, résume ainsi Gilbert Thiel.
Moi j'ai essayé toutes les stratégies. Je me souviens d'un activiste corse qui me disait « je n'ai rien à déclarer ». Et après lui avoir fait remarquer qu'il n'était pas dans un bureau des douanes coloniales, il a varié, il a pu dire « je n'ai rien à déclarer ». Mais je n'ai rien à dire, je l'ai fait revenir 5 jours de suite et au bout de 5 jours, l'avocat a dit que je harcelais judiciairement son client. Voilà. En tout état de cause, l'interrogatoire a le mérite, parce qu'on pose les questions et on note l'absence de réponse, de soumettre aux mises en examen les éléments de la procédure et donc de lui donner la possibilité de les commenter, de les contester. Mais il ne pourra pas dire « j'étais pas informé parce que là-dessus j'aurais pu m'exprimer ».
Reste qu'une fois renvoyé en procès, certains terroristes présumés estimant l'institution judiciaire illégitime choisissent là encore de garder le silence.
C'était Charlotte Piret, journaliste au service Enquête Justice de la rédaction de France Inter.